Amen. Jean 6. Alors, on va tous lire les versets à mesure qu'on avance, mais je veux vous lire les versets 34 et 35, juste pour s'introduire avant que je prie. Puis j'ai hâte de regarder avec vous ces versets vraiment puissants de la parole de Dieu. Et il y a certaines controverses même dans ces versets-là, si on les laisse nous controverser. Mais là, on va se verser dans les Écritures et on va apprendre ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Donc, on peut lire au verset 34. Il lui dit, donc Jésus, là, que déjà le sujet du pain est déjà développé quand même. Et donc, la foule dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donc, eux autres voulaient du pain, un peu comme la femme a dit, j'aurais pas besoin de retourner chercher de l'eau. Eux autres, ils veulent toujours avoir ce pain. Et la réponse de Jésus, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit en moi, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes avec ta parole vivante et ce passage tellement puissant. Le premier « Je suis » de Jean et aussi des vérités tellement extraordinaires sur le vrai pain de vie. On a lu dans Exode 16 les ombres de ces choses qui sont accomplies en toi. Donc, ouvre nos yeux qu'on voit toutes les merveilles de ce passage, de ce que tu as pour nous. Non seulement ce matin, mais pour nos vies, ce que ça veut dire, pour notre Église, pour ta gloire, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Et oui, la déclaration du verset 35 et ce qu'on appelle le « Je suis », c'est un des « Je suis » de Jean. Et c'est le premier de Jean. Et ça, quand on lit « Je suis » dans Jean, il faut comprendre que ça réfère à Exode 3,14, où est-ce que l'Éternel parle du buisson ardent. Tu te rappelles, Christophe, on a vu ça hier, une théophanie, hein, Dieu qui se présente sous différentes formes dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Mon nom, là, je m'identifie ce que je suis ». C'est « Je suis ». ».« Je suis celui qui suit ». Et donc, Jésus, en disant « Je suis, je suis, je suis », il se fait l'égal, OK? Puis, il se dit lui-même être Dieu, il se fait l'égal de Dieu, comme il le fait de plusieurs manières. Donc, il est ici, évidemment, dans Jean 6 avec le pain de vie, mais Jésus continue après, parce que dans chapitre 8, chapitre 9, il dit « Je suis la lumière du monde ». Dans Jean 10, il va dire que « Je suis la porte des brebis ». Il dit aussi « Je suis le quatrième, c'est « Je suis le bon berger ». Au chapitre 10, verset 11. « Je suis la résurrection et la vie. Hein? » Chapitre 11 avec la résurrection de Lazare. Et je pense que le plus grand de tous les classiques, c'est Jean 14, 6. Hein? « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et le dernier, c'est dans Jean 15. « Je suis la vigne, ou si vous voulez, le cep. » Donc, c'est moi, la racine nourricière. Donc, c'est les sept « Je suis » qu'on retrouve dans Jean. Et ici, on a donc le premier. Et ces déclarations ne sont pas sans conséquence. Lorsque Jésus s'exprime comme ça, ça augmente beaucoup la tension entre lui et la foule en général, parce qu'il n'était pas accepté nécessairement par tous, mais spécialement par le leadership spirituel. Parce que c'est clair que c'était dit et compris comme des affirmations de divinité, d'égalité avec Dieu. Et savez-vous que pour nous aussi, plus on est confiant, plus on est clair dans notre proclamation de qui Jésus est, plus l'opposition va monter. Là, on parlait de ça encore hier. C'est vrai, parler de Dieu en général, puis tout ça, ça ne faut pas trouver. Mais dites que Jésus est le seul chemin, puis proclamer la personne de Jésus et son œuvre, là, ça fait moi l'unanimité, la chicane pogne plus facilement. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui-même a dit. Je suis venu pour amener l'épée, la division. Et donc, c'est clairement aussi un pattern qu'on voit dans Jean, là, parce que Jean, je vous l'ai déjà dit à quelques reprises, on voit une augmentation de l'attention, là, puis il y a vraiment là, une augmentation claire qu'on peut voir. Puis ici, dans Jean, ça commence à être assez tendu. Puis on comprend que tout ça se passe dans un contexte ici, puis on va commencer par la fin, verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Donc ça se passe dans un contexte relationnel ou communautaire. Il dit ça, là, on va le dire de même, là, un beau dimanche à l'église, OK? Un beau samedi dans la synagogue, là, mais OK? C'est que Jésus est là comme un enseignant, puis les gens l'écoutent, OK? Et donc, c'est important à comprendre et à se rappeler Parce que Jésus, là, ici, puis déjà, on voit dans Jean, on le voit beaucoup, il parle de vérité céleste. Hein, comme il a dit à Nicodème, il vous parle de vérité céleste, et puis vous autres, il se ramenait toujours au terrestre, même chose avec la femme samaritaine. Mais il est en chair et en os, il est là devant eux comme étant l'accomplissement de ces vérités célestes. C'est là que ça devient dur, là. Quand tu nous parles des choses là-bas, mais là, toi, tu es celui qui est la réalité qu'on voit devant nos yeux. C'est pour ça là, que c'est tant choquant puis controversé, parce que là, t'as peu, là, tu nous parles de grandes choses, là, comme on voit, mettons, les prophètes, puis OK, dans les Écritures, il y a beaucoup de choses sur le céleste qui est écrit. Mais là, toi, là, tu dis, celui qui est devant nous dans la synagogue à Capernaum, t'es l'accomplissement de ça. C'est comme, wow, OK? C'est là qu'est le choc des idées. D'ailleurs, Jésus a fait ça à plusieurs reprises ici avec les images, mais même avec des passages prophétiques, un des classiques que j'aime tellement. Quand Jésus a cité dans la synagogue, dans Luc 4, Ésaïe 61:1, qui dit, puis Jésus ici, c'est dans, je vous donne la version dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Virgule. C'est 2000 ans qu'a duré cette virgule-là, parce qu'après, dans Ésaïe, c'est le jugement, mais bon. Puis qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. C'est comme, wow! Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Enfin, voyez-vous, Jésus, là, il était controversé pour des raisons, je veux dire, c'est des grandes déclarations, on dirait, hey, l'Ésaïe, le prophète, ce qu'il a dit, là, mais ben là, moi, je l'ai accompli. Puis encore là, ici, le pain qui est venu du ciel, puis tout le monde connaissait ça, là, je veux dire, c'était pas des nouvelles de parler de la manne, tu sais, c'était connu, c'était un classique des Écritures, c'est moi le vrai pain. Fait que, je prends le temps d'expliquer ça pour que vous voyez que il y avait vraiment un choc des idées, un choc ici, les gens étaient heurtés par les paroles de Jésus, puis on le voit dans le passage, les paroles que tu dis sont dures. Des fois, nous, on regarde ça en tant que tu sais, dans notre culture, dans un monde beaucoup détaché de ça, là, ça fait quand même 2000 ans, puis on ne saisit pas nécessairement toute la portée de ça, mais c'est vrai que c'était dur d'entendre ça, c'est comme, wow, tu prétends être tout ça, là? Non, je prétends pas, je déclare. C'était avec autorité, là, c'était pas juste... il n'était pas gêné de le dire, là. Il le proclamait avec une grande autorité. Bon, ça, c'est mon introduction. Et donc, on va regarder, là, avec notre texte ce matin, quatre éléments de l'enseignement du pain de vie. Parce que Jésus est le pain de vie, puis il enseigne sur le pain de vie. Donc, il enseigne sur lui-même comme étant le pain de vie. Le titre du message, c'est « L'enseignement du pain de vie ». D'abord, dans les versets 35 à 40, on voit l'appel lancé par Jésus-Christ. On va lire, on a déjà lu verset 35, relisons-le. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, et celui qui croit en moi, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est pour pas que vous pensiez que je suis trop bon, là. « Mais je vous l'ai dit, et vous m'avez vu, et vous ne croyez point. » Et donc, on va arrêter là, parce qu'on va regarder les versions un par un, mais... on voit d'abord Jésus là, qui proclame des choses, puis on va le comprendre en voyant l'ensemble des versets, que Jésus lance son appel. Puis savez-vous, dans notre culture moderne nord-américaine, qu'est-ce qu'on fait habituellement, puis on fait ça ici aussi, on finit par l'appel. On amène le message, puis là, sur la base de ces choses, on appelle les gens à répondre. Jésus commence par l'appel. D'ailleurs, on voit ça aussi, des prophètes qui font ça. Hein. Jonas, là, il n'y a pas grand... c'est comme, repentez-vous, c'était comme... ben, lui, c'était le seul message qu'il y avait. Mais même dans Ésaïe, quand j'ai lu tantôt dans Ésaïe 55, comme le chapitre ouvre sur l'invitation, venez. Puis là, après ça, il y a tout ce qui vient comme implication de ça, mais ça commence par l'invitation. Et donc... c'est quoi au juste l'invitation? Bien, d'abord, ça commence par cette double affirmation surnaturel. Quand Jésus il dit « Je suis le pain de vie », il parle de qui il est. Okay? Puis quand il dit ensuite « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim », je ne me suis pas trompé. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il parle de ce qu'il fait. Il est le pain de vie, et qu'est-ce qu'il fait? Il étanche parfaitement la faim et la soif. Donc, il y a une double déclaration sur ce qu'il est et aussi sur ce qu'il fait. Mais là, regardez ce qu'il dit dans le verset 36. « Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. » Peut-être que même ce qu'ils voyaient, ça les empêchait de croire, parce qu'ils ne pouvaient pas... Ce qu'ils voyaient, voyons, c'est juste un homme qu'on a devant nous. Fait qu'ici, là, des fois, vous aurez appelé, vous savez, j'aime ça parler des « mais Dieu » de la Bible. Là. Ben ici, c'est pas un beau « mais ». C'est pas « mais Dieu », c'est un « mais l'homme ». Parce qu'il dit « mais là, tu sais, je vous ai tout dit ça, là, mais vous croyez pas ». C'est l'incrédulité ici qui est dénoncée. L'homme qui s'arrête se laisse dégoûter par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, au lieu de croire. Et là, j'ai regardé ce que ça dit, puis là, c'est, là, on a vraiment ici la saveur de l'appel. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Verset connu des Écritures, avec dans un même verset le paradoxe entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Puis on va développer ça un peu plus avec le verset 44 tantôt. Pour l'instant, ce que j'aimerais dire ici, c'est que ces vérités-là, ici, comme on voit, là, le Père donne, puis Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Ces deux vérités-là, c'est beau, c'est nécessaire, puis Jésus, c'est pas l'idée de... Jésus ne voulait pas créer une polémique quand il disait ça. C'est un appel à lui. Il dit, si vous venez à moi, là, OK, il y a l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu, mais si vous venez à moi, là, je ne vais pas vous mettre dehors. Donc, il faut voir le côté personnel là-dedans, parce que les gens voyaient en Jésus... un personnage, puis il voyait dans la parole beaucoup, bon, des cérémonies, des lois, des choses, mais là, il dit, non, la foi, là, c'est venir à une personne, c'est moi. Si vous venez à moi, je ne vais pas vous mettre dehors. Pour comprendre ici un peu le contexte, pensez, par exemple, à lorsque Jésus, on a vu ça dans le chapitre 5, il parle aux leaders spirituels, puis il dit, vous sondez les Écritures, hein, vous recherchez les Écritures, parce que vous croyez avoir en elles la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Fait que là, il leur parle de la manne puis des choses qui sont dans les Écritures, mais au bout du compte, il dit, hey, tout ça, là, ça pointe à venir à moi. Puis ça, ça met le contexte, parce que vous allez voir, quand il parle après ça de manger sa chair, de boire son sang, c'est tout vraiment la même idée. Il appelle à lui-même, à prendre part à qui il est, à le croire, à se l'approprier. Donc, c'est comme ça que, vraiment, la table est mise avec cette invitation de la part de Jésus, pour une foi personnelle dans une personne. Ce n'est pas une foi personnelle dans des choses, c'est une foi personnelle dans une personne. Et là, au verset 38 et 39, et Jésus continue en disant, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et c'est quoi cette volonté-là? C'est qu'il meurt sur la croix, qui donne sa vie comme rançon pour plusieurs. Donc, la volonté de Dieu, c'est de sauver, hein, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est aussi de garder ceux qu'il sauve, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, non seulement sauver, mais garder. Garder, non seulement sauver de la pénalité du péché, mais préserver, garder de la puissance du péché pour qu'un jour on puisse être délivré complètement même de la présence du péché. Amen. Alléluia quand on va être dans la présence de Dieu. Hey, j'ai dit alléluia. Excusez, on n'est pas supposé dire ça dans une église baptiste. Non, je pense que c'est dans la Bible, alléluia. Ça se peut-tu? Je blague, évidemment. Mais regardez le verset 40. On continue, là. Ça nous dit, « La volonté de mon Père... c'est que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Encore, voyez-vous, il y a un côté ici, il y a un quiconque, un appel universel, un appel lancé à tous. Okay? Il n'y a pas de sélection là-dedans. Et c'est quoi l'appel? C'est de croire au Fils. C'est la foi, la confiance dans le Fils que le Père envoyé, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la vie éternelle, mais aussi même, si on continue plus loin des Écritures, on sait que cette vie, hein, c'est la vie abondante, c'est la vie que Jésus donne. C'est plus que juste un ticket au ciel, c'est une vie d'une qualité qui fait qu'on n'est plus pareil lorsqu'on l'a. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on peut dire que ce matin, l'invitation n'est pas lancée par moi, mais ici par Jésus lui-même dans notre texte, et c'est à lui qu'il faut répondre. Et donc, c'est notre premier point, l'appel qui est lancé par Jésus. Mais ensuite, ça se gâte un peu parce qu'il y a la réprimande qui est donnée par Jésus. Et on comprend ça lorsqu'on voit dans la suite des choses, dans les versets 41 et 42, « Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Là, il parlait entre eux autres, je vous l'ai dit, là, c'était controversé de dire ça. Là. Okay? Verset 42, il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, hein, celui qu'on a vu de nos yeux depuis hein, tout ce temps-là, celui dont nous connaissons le père et la mère, comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? » Donc, la raison pour la réprimande de Jésus, c'est leur incrédulité qui est exprimée ici dans les versets qu'on vient de lire, parce qu'ils refusent de voir au-delà de ce que leurs yeux peuvent voir. Ils refusent le surnaturel, le céleste, et ils ramènent tout au naturel, au terrestre. Un peu comme dans 1 Corinthiens chapitre 2, hein? L'homme naturel ne comprend pas les choses spirituelles. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc, pour eux, ils sont offensés parce que, voyons, on le connaît, ce gars-là. Il ne voit pas au-delà de ce que Jésus est devant eux, puis ses paroles ne rentrent pas dans leur cœur. Pourtant, dans le texte qu'on a aujourd'hui, si on rajoute le verset 33 qu'on a vu la dernière fois, la semaine dernière, à 6 reprises, Jésus dit être descendu du ciel. Verset 33, 38, 41, 50, 51, 58. Quand même assez clair, là. Jésus est descendu du ciel. Et bien sûr, ce que ça signifie, puis c'est comme ça aussi que c'est compris, c'est qu'il dit qu'il est d'origine céleste. Il dit qu'il n'est pas d'ici-bas. C'est là, justement, ça. Comment il dit qu'il est venu du ciel? On sait qu'il est d'ici-bas, on connaît son père, sa mère. Il connaissait sa mère, mais il ne connaissait pas son père. Il pensait connaître son père, mais ce n'était pas le bon. Parce que Joseph, ce n'est pas le père de Jésus. C'est lui qui s'en est occupé en termes terrestres. Mais évidemment, Dieu, le Père, est le vrai Père de Jésus. Et c'était un grand problème pour les contemporains de Jésus, pour ceux qui sont là, là puis qui parlent ainsi. Parce que eux autres s'attendaient à un Messie là, qui allait venir sur les nuées. Vous savez, bon, c'était dans les attentes du peuple, il va venir sur les nuées, puis tout ça fait partie aussi du camp que Jésus a été tenté par Satan. C'était pour répondre aux attentes des hommes, ou pour le dire autrement, ils s'attendaient à du spectaculaire, du « Wow, OK, boum, le Messie est arrivé! » OK, puis là, hey, tout le monde, hey, c'est comme évident, c'est le Messie, OK? Ils s'attendaient pas à quelqu'un qui est né parmi eux, puis qui a grandi parmi eux paisiblement, comme un petit gars bien ordinaire qui est devenu l'homme qui est devant eux autres. Et là-dessus, j'ai une illustration parce que on sait qu'il y a tellement de types de Jésus dans la Bible, mais un qui est puissant parce que je ramène là-dessus. Là, si vous l'avez pas écouté, moi, en tout cas, j'ai pas vu de problème majeur avec sur Amazon, il y a The House of David. Là, puis là, je vous vends le punch, là, ça finit avec David et Goliath, mais c'est vraiment bon parce que la façon que c'est présenté, tu vois, David est méprisable. C'est un petit gars, il n'est pas shapé pantoute, là, tu sais. Puis, il n'y a rien de spécial, puis tu sais, c'est comme, ce qu'il fait là, puis... Mais, ce qu'il fait, bon, puis vous connaissez l'histoire, là, il gagne contre Goliath, OK? Sure, j'espère que je ne vous brise pas du point, parce que sinon, ça veut dire que vous ne connaissez pas très bien votre Bible, là. Mais, c'est comment tout ça s'est présenté, comment, ben voyons, c'est qui ça? Mais ce qu'on voit, c'est que dans son cœur brûlait ce zèle pour l'Éternel. Hey! C'est par rapport à comment... C'est la grandeur de Dieu qui est en jeu ici. Goliath n'est pas plus grand que mon Dieu. Puis c'est ça qui l'animait. Puis Jésus était méprisable et tout ça pour les gens, mais il ne voyait pas que ce qui était dans son cœur, c'est celui qui proclamait les grandes vérités de Dieu. Puis là, Jésus, c'est le plus grand et le meilleur David. Là, je veux dire, il y a tellement plus à Jésus que le simple David. Mais c'est drôle, c'est un type parce qu'on voit ça ici. Hein, c'est juste le fils de Marie puis Joseph. Il est né parmi nous, puis... Je veux dire, il avait un petit job ordinaire, là, c'est pas... Comprenez-vous? Il voyait pas, il était pas de penser au-delà de ce qui frappait l'œil de même. Et là, il murmurait. Ça dit, c'est ce qu'on a lu, là, au verset 41. Il murmurait. Ça ne vous rappelle pas la manne dans le désert? Le murmure. Il murmurait par rapport au pain de vie. Tout comme dans le désert, le pain était là. Puis c'est quoi la source? C'est la même chose. L'orgueil puis l'incrédulité. Voyons, Dieu, ça ne marche pas. C'est quoi ton affaire? Puis, okay? Pas accepter les voies, les plans de Dieu qui sont bien au-delà de nos voies puis nos plans puis nos pensées. Et donc, on voit évidemment un parallèle entre les deux récits. Et là, Jésus de dire, au verset 43, Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. » Donc, il les reprend là-dessus, le murmure, autrement dit, « Manifestez pas comme ça l'incrédulité puis l'orgueil de vos cœurs. » OK, il les reprend comme ça. Et de continuer au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs croyaient, et croient encore, hein, être les élus choisis de Dieu en vertu de leur naissance physique. Hein, on est le peuple élu de Dieu, pas de problème, nous autres, c'est canné d'avance. On a la faveur de Dieu. Jésus les a pris là-dessus plus loin dans Jean au chapitre 8. Puis il leur a parlé un peu de descendance. Jésus a parlé un peu de généalogie avec eux autres. Dans Jean 8, 39, il leur répondit... c'est pas Jésus qui parle, c'est la foule qui parle à Jésus. Notre père, c'est Abraham. Parce que, bon, il se relançait d'Abraham, puis il avait raison, là, je veux dire, c'est la lignée d'Abraham. Mais écoutez bien ce que Jésus leur dit, puis je vais vous l'expliquer, ça vous aide à comprendre. Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. » Que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a pas fait. Autrement dit, on n'ira pas dans les détails de ces deux mots grecs différents. Il y en a un qui parle de vous êtes des enfants, la postérité physique d'Abraham, mais vous n'êtes pas sa postérité spirituelle. Parce que la postérité spirituelle d'Abraham, c'est quoi? C'est la postérité par la foi. C'est ceux qui croient à la promesse. À travers toutes les Écritures, on voit ceux qui ont la foi d'Abraham, qui croient à la promesse qui avait été faite à Abraham. Puis qui pointe éventuellement, évidemment, à Jésus, hein, qui est le grand et le meilleur Isaac, celui que Dieu a donné sur la montagne. Et donc, c'est ça, il y avait une fausse confiance dans leur élection. Ah ouais, Dieu nous a choisis, puis tout est beau. Mais Jésus amène ça au niveau personnel. Non, c'est pas une question de t'es dans la bonne famille, puis t'es dans le bon peuple. C'est personnel, c'est ta foi, c'est ta relation avec Dieu. C'est ça, la foi d'Abraham, c'est ça l'objet de la confiance de quelqu'un devant Dieu. C'est une relation personnelle en réponse à l'appel personnel de Dieu. Et le pattern ici, c'est simple. Dieu appelle, nous venons. Il est l'initiateur, nous répondons. OK, vous comprenez là? C'est lui qui attire. Le mot ici attire, là certains vont dire « Ah, c'est une grâce irrésistible et tout ça, je ne vais pas aller trop dans les détails avec ça, mais il y a un parallèle intéressant. Dans Jérémie 31:3, « Je t'aime d'un amour éternel, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dans la Septante, puis même j'ai trouvé dans une version anglaise, « With loving kindness I have drawn you, je t'ai attiré. » Puis on peut me dire dans le Nouveau Testament, ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Enfin, il tire puis il pousse, comprenez-vous? Il va dans, puis il nous pousse où? À Jésus. Okay? Ça, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la grâce qui nous amène à Jésus, à le considérer, à le recevoir. Mais ce n'est pas une contrainte, un dragging, c'est comme contre ta volonté. Puis c'est là justement qu'il faut garder l'équilibre parce que si nous venons contre notre gré, ben on ne croit pas. Puis si on ne croit pas, on ne vient pas. Fait que ça prend les deux côtés. Là. Je vous laisse jongler avec ça. Ce n'est pas le sujet de mon message, de parler du mystère, de le paradoxe entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Mais l'idée, c'est que Dieu n'agit pas contre notre volonté, mais en harmonie avec. Conciliez ça comme vous voulez. Moi, je me suis déjà battu avec ça. À cette heure, je l'accepte simplement par la foi, comme j'accepte que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Sur ces belles paroles, le verset 45 nous dit, Jésus, Il est écrit dans les prophètes, ça c'est Jésus qui cite la parole, c'est beau ça. Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Évidemment, ça l'abonde dans le sens de ce qu'il venait de dire au verset 44, mais Jésus ici cite Ésaïe 54, 13 et Jérémie 31, 34, la Nouvelle Alliance. Okay, tous seront enseignés de Dieu. Puis c'est quoi qu'il faut comprendre ici? C'est un appel, Jésus appelle à lui, puis justement, la Nouvelle Alliance, en comparaison avec l'Ancienne, ça l'amène à un degré d'intimité tout à fait nouveau, inégalé, inconnu jusqu'à maintenant. Tous seront enseignés de Dieu. Dieu lui-même enseigne son peuple. Ça, on voit dans le Nouveau Testament, ça dit « Son onction nous enseigne toutes choses hein, » dans 1 Jean. C'est Dieu, le Saint-Esprit lui-même, qui vient habiter en nous. Et il nous enseigne dans nos cœurs. Et c'est là toute l'importance pour nous de se laisser enseigner par Dieu. Puis là-dessus, je veux amener un point. Des fois, vous savez, c'est toujours un piège la théologie réactionnaire quand on réagit à quelque chose. Certains mouvements ont fait de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit ci, puis m'a dit ça. Ils sont allés trop loin avec ça, puis ont inventé toutes sortes de salades avec ça. Mais je pense que nous, en réaction, c'est comme, on parle beaucoup de la parole, mais on oublie que on est enseigné dans toute la parole, dans toute la vérité, par le Saint-Esprit. Des fois, parce que j'écoutais un message en fin de semaine, ou vendredi, en tout cas, puis j'entendais le gars, puis ça m'a comme rappelé, parce que je pense que notre emphase, je pense qu'on est retourné plus un peu plus à un équilibre, j'espère. Mais tu sais, c'est comme quand on parle de chercher Dieu, de grandir, c'est comme la parole. Tu sais, c'est comme quelque chose qui est là, puis tu sais, la parole, mais... Vous comprenez que ça peut être impersonnel. Tu sais, c'est vraiment la parole a été faite chair, c'est une personne. Puis la parole nous parle du Dieu de la parole, puis le Dieu de la parole se révèle par l'Esprit qui a inspiré la parole. Il ne faut pas comprendre ça. Être enseigné de Dieu, là, c'est cette symbiose entre les deux. Quand on lit les Écritures, j'espère qu'on ne les lit pas sans que Dieu, le Saint-Esprit, éclaire nos cœurs, puis qu'on a un « wow », puis qu'on est enseigné de Dieu par sa parole. Parce que ce n'est pas une fin en tant que telle de juste lire la parole. On est enseigné par le Dieu de la parole. Là, il y a quelque chose qui se passe quand le Dieu de la parole, qui a inspiré la parole, nous enseigne sa parole. Puis en passant, ça ne se passe pas juste quand tu fais ta dévotion, là, pour prendre un terme, je pense, qui est anglophone. Ça se passe aussi là, dans le quotidien. Dieu nous rappelle la parole, n'est-ce pas? Puis là, mettons, on aurait le goût de répondre d'une façon. Je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, j'ai comme une façon... première, qui n'est pas nécessairement la bonne. Ça m'est arrivé il y a 2 ans, je me rappelle. Vu que ça arrive tellement pas souvent, je me rappelle, c'est il y a 2 ans. Non, qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit, sur le moment même. Là, ça ne veut pas dire verset puis tout ça, mais il nous rappelle une vérité de la parole. Oups, il nous saisit. Là, on a le choix. On choisit-tu la mort ou la vie? On choisit-tu de s'appuyer sur notre propre sagesse ou on reconnaît l'Éternel dans toutes nos voies puis on s'appuie sur lui? OK, c'est ça, être enseigné de Dieu. Bon, une petite parenthèse comme ça. Mais c'est pour dire que c'est vraiment, c'est relationnel. Puis si on passe à côté de ça, on passe à côté de l'essentiel. Puis savez-vous quoi? Oh, là, je veux dire quelque chose. Là, j'ai un petit peu de pilage d'orteils à faire. Comment souvent on manque ça? C'est beau, hein, ce que je vous ai dit. Est-ce que ça vous tente, là, de hey, la parole, puis Dieu nous parle, nous enseigne par son esprit? Hein, c'est pas pire, ça, hein? Comment on manque ça? C'est par nos murmures. Quand on murmure. Puis souvent, on peut être caricatural. Des fois, ça nous fait manquer le point. On voit du monde dans le désert, ils sont tous pas contents. Non, les plus beaux murmures, les plus efficaces, là, c'est les subtils, puis ceux qui sont justifiés, qui sont à la sauce chrétienne. Un beau petit murmure là, qui a donc l'air inoffensif, là, mais qui est quand même pas de la foi, c'est de l'orgueil et de l'incrédulité. Pareil. Ça se pensait pas, on n'est pas au-dessus des murmures. Là. On a des cœurs qui peuvent facilement tomber dans le murmure. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On pense que Dieu veut nous enseigner. Dieu a des choses à enseigner, mais les murmures prennent le dessus. Étouffe la voix du Saint-Esprit. Puis là, c'est nous qui réagissons, c'est nous qui répondons, et non pas Dieu. Et donc, si on continue, verset 46 maintenant, Jésus de dire, « C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. » Évidemment, Jésus parle de lui-même ici. Parce que je vous rappelle, bon, ce qu'il a dit dans Jean 14. Je vous rappelle ça, moi, là? Oui, OK. Philippe lui dit, « Philippe, écoute bien, on parle de toi. » Donc, les autres, vous n'êtes pas obligés d'écouter. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. À trois reprises dans les versets que je viens de vous lire, dans Jean 14, 8 à 11, Jésus parle de croire. Et c'est ça la clé pour voir. Les gens qui voyaient juste Jésus, là, si simplement ils croyaient à ses paroles, ils ajoutaient foi à ce qu'ils disaient, là, ils allaient voir. Et c'est ça la clé pour toute la vie spirituelle. On ne voit que lorsqu'on croit. D'ailleurs, on ne voit le salut de Dieu qu'au moment où est-ce qu'on croit en Jésus comme notre sauveur personnel. Et on ne voit toutes les vérités, les merveilles de la grâce de Dieu dans nos vies que lorsqu'on croit. On ajoute foi. Et Jésus parle ici, il ne fait rien de lui-même, il est animé par le Saint-Esprit. C'est vrai pour nous. Écoutez Philippiens 3:3, et c'est ma dernière chose que je dis sur ce point-là. Car les circoncis, c'est nous, circoncis de cœur, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Puis ça dit aussi dans Colossiens, Paul parle de ceux de Colosse, il dit, « Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. » Donc c'est ça, toute l'idée de ce que Jésus enseigne ici jusqu'à maintenant. Et là, on arrive dans les versets 47 à 51. Non seulement il y a eu l'appel de Jésus, sa réprimande, mais là, il va offrir un enseignement à ses auditeurs. Là, vous allez voir, il s'en va beaucoup plus dans les détails pour expliquer les choses sur ce qui le concerne. D'abord, au verset 47 et 48, on peut lire, « En vérité, c'est Jésus évidemment qui parle, « Je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » En fait, là, Jésus, il répète ce qu'il a déjà dit, vous voyez avec ce qu'il a dit avant, c'est parce qu'il veut revenir sur le sujet. Il vient de parler là, de sa relation avec le Père et tout ça, puis OK. Mais là, il ramène le sujet du pain de vie, puis de la foi en lui. Okay? Donc, il ramène ça sur la table. Au cas que les gens aient oublié, au cas qu'ils soient déroutés, je suis le pain de vie. Puis là, il parle de croire en lui pour avoir la vie éternelle, okay? La vie qui vient de Dieu. Et donc, ça nous amène au verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ils en ont mangé du pain venu du ciel, mais ça n'a pas donné la vie, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, verset 50, afin que celui qui en mange ne meure point. Fait que là, il amène encore un peu comme avec la femme samaritaine. Hein, si tu bois de l'eau que je te donne, tu ne vas plus jamais avoir soif, tu ne vas pas mourir. Ben là, c'est un peu la même affaire, mais avec le pain. Et le parallèle ici, évidemment, qu'on peut faire, c'est que les vérités qui ont été annoncées, qu'on a vu, par exemple, dans Exode, là, avec tout ce pain-là qui venait du ciel, bon, ça soutenait leur vie terrestre, puis c'est la provision de Dieu, mais ultimement, ils en sont morts. Jésus se présente comme étant l'accomplissement de ce pain qui donne une vie qui ne périt jamais. Puis c'est là, là qu'il y a vraiment une force là-dedans. Là. Et Jésus, il faut comprendre ici, je veux amener une petite illustration pratique. Vous savez, tout le monde, on nourrit nos cœurs de quelque chose. Tout le monde. Nos cœurs sont affamés, sont assoiffés. Nos cœurs, étant créés à l'image de Dieu, veulent plus, veulent du « wow ». On a une aspiration profonde dans nos cœurs, n'est-ce pas? Pour ça qu'il y a des dépendances, pour ça qu'il y a toutes sortes de bébelles qu'on voit, c'est parce que le cœur est un engin aspirateur. OK? C'est un aspirateur, puis on essaie de prendre... Puis, OK... On peut essayer, on peut diriger ses aspirations vers les médias sociaux, le commérage, le sexe, la colère, les arts, les sports, l'attention d'autrui, les peurs. Tu sais, c'est quasiment the sky is the limit. Là. Il y a tellement de choses. Mais toutes ces choses, c'est comme, lorsqu'on se nourrit de ça, c'est comme si on mange de la cendre ou des écailles. Pas très nourrissant, n'est-ce pas? Et justement... C'est ça l'idée de se nourrir de Jésus, le vrai pain. Ça, c'est celui qui est une nourriture. C'est la seule nourriture qui nourrit vraiment le cœur. OK? Et se nourrir des paroles de la vie, comme ça dit, exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et là, on tombe dans le vif du sujet pour parler c'est quoi ça veut dire se nourrir de Jésus. OK? Êtes-vous prêts? On tombe un peu dans une... Il y avait la controverse tantôt, élection, puis libre arbitre de l'homme. Là, on va tomber avec celle-là sur le pain de vie. Jésus dit au verset 51, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus donne sa chair à manger. Ça vous fait penser à quelque chose? Là, je vous rappelle, juste pour être clair pour tout le monde, quand que les catholiques célèbrent la messe, ils disent qu'ils prennent littéralement le corps de Jésus, sa chair, puis lorsqu'ils boivent le vin, ils disent que littéralement, c'est son sang. Donc, c'est expiatoire, OK? Puis ça, c'est le texte sur lequel ils vont s'appuyer pour ça. Fait qu'on va débattre une question un peu ensemble, mais évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que ici, on a la conviction que Jésus parle en termes, c'est une métaphore en termes imagés. Puis d'ailleurs, c'est commun pour Jésus, là, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre quand il parle de manger sa chair, ça réfère à prendre pour soi, ou on peut dire au plus profond de soi-même. Et le mot « mange » ici, dans les temps de verbe, là, il y a différentes façons de conjuguer les verbes en grec, c'est le temps qu'on appelle « aoriste ». Ça parle de « une fois », c'est un point. Tu sais, à la fin d'une page, d'une phrase, on met un point. Mais là, c'est un point. Celui qui mange une fois, il n'aura plus jamais faim. De quoi ça réfère, vous pensez? Le salut. Ce n'est pas un mangeage continuel qu'on recommence, mais si tu manges de ce pain, tu n'auras plus jamais soif. N'est-ce pas vrai? Quand on a reçu Jésus comme notre sauveur, c'est arrivé une fois dans le temps, on est né de nouveau pour on n'a plus jamais soif. C'est de ça qu'il parle. C'est clair. OK? Mais on va développer un peu plus parce qu'il nous reste d'autres versets à voir. Vous allez voir, ça va encore plus loin. Et c'est ça. Je viens de le dire. Dans le passé, puis même dans le présent, il y a une controverse là-dessus par rapport à la communion, puis tout ça, c'est quoi ça veut dire? C'est clair que Jésus ici parle pas du repas du Seigneur, l'Eucharistie, la communion, appelez-le comme vous voulez, là, la Sainte. Il parle du salut. Il parle de la nouvelle naissance, de recevoir Jésus comme notre sauveur. Pensez-vous que si ça, c'était tellement sur le repas du Seigneur que Paul n'en aurait pas parlé dans les Épîtres? Par exemple, dans 1 Corinthiens 10 et 11, qui parle beaucoup de tout ça, Paul a fait zéro mention. OK? La Bible s'explique par la Bible. En fait, le langage qu'on a ici dans ces versets-là, ça parle de s'approprier de façon personnelle et dans le cœur l'œuvre de la croix. Quand il dit « ma chair que je donne », comment qu'il fait? C'est arrivé quand il a donné son corps sur le bois infâme. Ça parle de la croix. Et donc, avant d'aller à l'application qui s'en vient, je vous dis pour dernier point ici, est-ce que tu nourris ton cœur de la croix, des vérités de la croix? Ou est-ce que tu médites, est-ce que tu te glorifies de la croix? Comme Paul dit, moi là, j'ai pas eu la pensée d'autre chose que de me glorifier que de la croix de mon Seigneur Jésus-Christ. Se nourrir de ça, avoir médité là-dessus, remplir son esprit de ces vérités glorieuses. Et donc là, on va voir comment Jésus, il nous amène ça, verset 51, puis là, il va appliquer ça. Jésus va offrir sur un plateau d'argent ces vérités-là pour que les gens les prennent pour eux-mêmes, OK? Dans les versets 52 à 59, et on a presque fini. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Évidemment, là, je veux dire, je vous le dis, on va le voir à la fin, Jésus, les paroles, ils ont pris ça, c'est dur ce que tu dis. Comment ça peut arriver? N'est-ce pas drôle qu'ils sont dans le comment? Puis Jésus est le qui veut se donner à eux. Les autres, ils s'enfargent dans le comment. OK? Leurs yeux sont en mauvaise place. Verset 53. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis. Puis il y a plusieurs fois que Jésus dit en vérité là-dedans. Ça veut dire, ce que je vous dis là, c'est bien important, portez attention. Verset 53. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme. Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ça, je dirais, c'est le verset pour dire, tu sais, pour l'Eucharistie, tu as la messe, là, hey, tu as vu, il faut que tu manges l'hostie, il faut que tu boives le vin, sinon tu n'as pas la vie en toi-même. C'est comme ça qu'ils vont expliquer, qu'ils vont aller dire que c'est propitiatoire, non, c'est pas le bon mot, là. Ben oui, en tout cas, mais... C'est expiatoire. Ça l'accomplit, l'expiation quand tu prends la messe. OK? Ils vont se baser là-dessus. Pas besoin de vous dire qu'ils tordent le sens des Écritures à leur propre perdition. Mais d'abord, il faut voir ici, là, Jésus fait juste vraiment mettre très clairement les choses devant les gens sur ce dont il parle. Okay? Il parle de manger sa chair et boire son sang. Puis il continue au verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, on parle vraiment ici d'idée que si tu manges, si tu bois, tu as la vie éternelle. OK? C'est vraiment clairement, je veux dire, tu ne peux pas passer à côté. Mais pourquoi je vous annonce, je vous déclare que c'est un langage qui est métaphorique, qui est illustré. D'abord, Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » OK? Mais aussi parce que c'est pas la seule chose dont Jésus parle de choses terrestres pour référer à des choses célestes. Il dit qu'il est le pain venu du ciel. C'était pas un gros pain qui est venu du ciel, là. C'était Jésus, un homme. OK? T'as vu? C'est une métaphore. Je suis là. OK? Il dit qu'il est le pain de vie. C'est-à-dire, encore là, c'est pas... C'est clair que Jésus est dans un langage métaphorique, mais pour référer à quoi? À la croix. Il réfère à la croix, au fait qu'il allait donner son corps, verser son sang. C'est ça les deux éléments fondamentaux de la croix, n'est-ce pas? Puis c'est ça que Jésus amène ici. C'est pour ça que les gens font tant le parallèle avec la messe, là, parce que c'est les deux éléments, mais Jésus lui-même les amène comme étant le fondement de son œuvre à la croix. Okay? C'est ce qu'on rappelle, n'est-ce pas, lors du repas du Seigneur, avec le pain et le vin. Et donc, quand on continue et qu'on voit... au verset 55-56, il dit « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Là, c'est une petite qui peut-être commence à être nerveux. Hey, Jésus a dit « vraiment ». C'est-à-dire que c'est vraiment du pain. Puis, OK? Puis au lieu de se perdre dans la controverse ici, là, puis être un peu troublé avec ça, là, écoutez bien, c'est quoi... La chose principale que Jésus veut enseigner, c'est impératif de recevoir, d'internaliser les paroles de Jésus, les prendre pour soi-même. Vous allez voir avec l'illustration de la fin. Ben, tiens, je vais vous la dire tout de suite. Écoutez, ben, je pense que ça va vous aider à comprendre. On parle de pain, là, OK? Puis Jésus ne parle pas juste de goûter le pain. Il ne parle pas juste d'admirer le pain. Il dit manger, là, puis boire, OK? C'est vraiment c'est ingérer, OK? C'est de ça qu'il parle. Si t'as pas ça, t'as pas la vie. C'est fort, là, comme terme. Écoutez bien cette illustration-là, je pense que ça va vous aider à comprendre. On peut voir du pain dans une assiette, ça l'apaise pas la faim. On peut voir les ingrédients du pain qui sont dans l'assiette, ça l'apaise pas la faim non plus. On peut voir une photo du pain sur Instagram, ça l'apaise pas la faim. On peut parler du pain aux autres, ça va pas non plus apaiser la faim. On peut vendre du pain comme profession, ça ne va pas non plus apaiser la faim. On peut jouer au football avec notre pain. Je veux dire, vous comprenez-vous, on peut faire ce qu'on veut avec notre pain. Là. Mais tant que tu ne manges pas le pain, tu n'es pas rassasié. C'est ça le point. Il voit Jésus, là. Puis il peut parler de Jésus, puis fils de Joseph, puis tatati, puis tata, faire plein d'affaires au sujet du pain. Mais il dit, moi, je suis devant vous, là, il faut que vous me preniez pour vous-même. C'est là qu'il y a la vie. Comprenez-vous le point? Mêler tout ça avec un... La messe et tout ça, c'est carrément une affaire qui est venue plus tard. Jésus, dans le contexte, c'est ça ici qu'il dit. Il dit, il faut que vous me preniez pour vous-même. Je suis vraiment... Je suis une vraie nourriture, je suis un vrai breuvage. Puis ça aussi, là, Jésus, c'est pas encore c'est tombé dans nous. On a lu dans Ésaïe 55, dire, tu sais, c'est venez, buvez au... Tu sais, je veux dire, Dieu parle tellement souvent de la foi qui sauve, la foi vivante, comme étant un repas, un breuvage, une appropriation, tu sais... Je veux dire, c'est cohérent avec tout le reste des Écritures. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre ce dont il est question, puisque Jésus ici communique. Et évidemment, ça va avec le verset 57, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » On vit par la foi, le juste vivra par la foi. Le juge mangera par la foi, qui est pour paraphraser. C'est vraiment ça ici l'idée. Fait, pour le mettre clair, manger puis boire, ça veut dire croire. C'est ça que ça veut dire. OK? Vous avez encore des questions, vous me poserez après, là. Mais il nous récapitule ça, Jésus au verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, évidemment, il parle de lui. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est là comment la misère avec ce passage-là, parce qu'on réfère à la controverse dont j'ai parlé. Mais avec la femme samaritaine, on n'a pas tant de misère, puis il parle d'autre de manière tout aussi symbolique. Mais c'est le même langage, voyez-vous? Fait que il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et donc, mon appel, c'est ceci. Jésus vous invite à le recevoir en tant que pain qui nourrit, en tant que source d'eau vive qui désaltère éternellement. C'est vrai pour les sauvés, mais savez-vous, c'est tellement vrai et c'est tellement beau pour nous, les enfants de Dieu. J'espère que Jésus est votre pain quotidien et votre source d'eau vive auquel vous vous désaltérez. Parce qu'on peut facilement aller aux citernes crevassées qui retiennent pas l'eau. Donc, c'est bon pour tous, puis c'est tellement puissant comme langage. Ça parle d'appropriation. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours, on mange, puis on dit « Ah, j'ai bien mangé. » Tu sais, on a soif, puis « Ah, ça fait du bien de boire. » Jésus dit ça, c'est moi. C'est moi. Moi, je suis celui qui va produire ça dans votre esprit, dans votre cœur, spirituellement. Vous allez avoir ça. Ah oui, là, je suis rassasié. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est Jésus qui s'offre lui-même, qui se donne lui-même comme étant celui qui désaltère, celui qui rassasie la faim. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et vous savez, si on se perd dans la controverse, on peut manquer le message principal. J'espère que j'ai communiqué le message principal que Jésus veut nous communiquer aujourd'hui dans ce qu'on a vu. C'est lui qui se donne lui-même. Puis ça, c'est le plus grand des cadeaux. Si vous avez poursuivi Jésus comme votre sauveur, il vous appelle à lui, il vous attire, répondez par la foi. Puis enfant de Dieu, que Dieu nous garde de s'endurcir, de prendre Dieu pour acquis, mais que vraiment, quotidiennement, on se désaltère, qu'on se rassasie de Jésus, notre pain qui est venu de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ce bon temps, parce que c'est un beau passage. Des fois, on arrive face à des passages bibliques, puis on est troublé par tout ce qu'on a pu penser, ce que des hommes disent. Seigneur, le passage que tu nous as mis devant les yeux, c'est pas parce que tu veux qu'on regarde ce que les hommes peuvent en dire. C'est ce que toi, tu veux nous dire ce matin. Et ce matin, tu nous invites à toi. Tu dis, je suis le pain. Tu nous invites à une table céleste extraordinaire. Merci, Seigneur, que c'est toi. Toi-même et toi seul qui rassasie, qui désaltère. Oh, on veut prendre à pleine bouchée, à pleine gorgée, cette grâce merveilleuse de Jésus. La provision de Dieu, l'Éternel pourvoira, l'Éternel a pourvu pleinement en Jésus. Merci Seigneur, que ces paroles ne tombent pas à terre sans avoir fait leur effet. Que chacun ici réponde par la foi à ce que tu nous as dit. On te le demande au nom de Jésus. Amen.